Point de mire, les événements dans les quartiers à Toulouse, une table ronde organisée à l'initiative des radios associatives de Midi-Pyrénées. Depuis le 27 octobre, si les événements ont commencé à Clichy, ce sont ensuite 300 communes qui ont été touchées sur l'ensemble du territoire. Avec des dégâts matériels, on comptabilise 6000 véhicules brûlés, plus de 100 bâtiments administratifs touchés, mais aussi des dégâts humains. Un mort à Stein, 90 policiers, 30 pompiers et 3 journalistes blessés. 1800 interpellations, 1124 placés en garde à vue, 273 personnes écrouées, dont 56 mineurs. Dans cette émission, nous allons évoquer plus particulièrement les situations de Toulouse, où il y a eu depuis vendredi plus d'une trentaine d'interpellations, dont un tiers de mineurs, et où la nuit dernière une école a été touchée dans le quartier de l'Arénerie. Cette table ronde a pour but de confronter les habitants des quartiers concernés, le monde associatif, le monde judiciaire et le monde politique. La vie dans les quartiers, la discrimination, le chômage persistant, le rôle des associations, les projets urbains qui visent à reconstruire le quartier, y compris socialement. De tout cela, nous discuterons avec nous autour de cette table, et bien pour l'instant seulement monsieur Amar Bellacel, vice procureur de la République. Nous attendons aussi Monique Iborra, vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, et vient d'arriver Mustapha Benzitouni de l'association Agora et des habitants du quartier de Bellefontaine. Et notez aussi que cette émission est multidiffusée sur la région Midi-Pyrénées. Et m'accompagnera aussi Philippe Frazière et Jean-Claude Catala.
Oui, donc je voulais dire, je voulais saluer, c'est Philippe Frazière qui prend la parole. Je voulais saluer, puisque nous allons présenter l'émission avec vous, Vincent Pourageau de Fréquence Soleil et Jean-Claude Catala pour Radio Mon Pays et donc moi pour Radio Éphémère. Nous serons, je voulais saluer les autres radios qui diffusent pour un grand nombre en direct et d'autres en léger différé ou en faisant des remontages de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Je les cite rapidement en les saluant. Radio Occitanie en Haute-Garonne, Radio Albigès dans le Tarn ainsi que Radio Air d'Otan, Radio Doc dans le Tarn et Garonne, Radio Décibel FM dans le Lot, Radio Fréquence Luz dans les Hautes-Pyrénées et enfin Radio Transparence à l'Ariège et enfin la dernière, j'allais l'oublier, Radio Sainte-Afrique en Aveyron.
Et donc eh bien le vice-procureur monsieur Amar Bellacel.
Bonjour.
Alors avec vous, on va déjà faire le point sur la situation actuelle à Toulouse.
Oui, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir invité, c'est une occasion bien sûr de pouvoir faire le point de la façon, je l'espère, la plus objective possible, et en vous précisant quand même que je ne suis peut-être pas le mieux placé ou le meilleur pour pouvoir représenter l'institution judiciaire. Peut-être que le choix de ma personne n'est pas innocent, eu égard à mon identité de naissance, mais je la revendique, et j'aurai peut-être là un privilège plus grand que le vôtre à pouvoir dire ce que je ressens et à proposer peut-être des explications sur ces événements et des éventuelles solutions à ceci. Mais en premier lieu, vous avez indiqué ma qualité de vice-procureur. Vous comprendrez aisément que mon devoir de réserve me limite dans certaines réponses qui font qu'en aucun cas je n'ai l'intention d'interférer sur telle ou telle opinion ou option politique. Je n'ai qu'à constater ce qui se fait et à vous donner les réponses juridiques ou judiciaires que j'estime devoir leur apporter. Voilà. Pour ce qui est des événements, vous l'avez très précisément rappelé, une trentaine d'interpellations, dont une partie très importante de mineurs, ce qui est assez inquiétant. Et les explications sur ce qui s'est passé, sur la propagation de cette violence venue d'ailleurs, venue de la région parisienne, et qui n'a quand même pas atteint la ville de Marseille, dont on dit pour certains que c'est la première ville nord-africaine que traverse le Paris-Dakar. Mais je veux là quand même placer nos propos sur le sérieux, sans omettre bien entendu l'humour qui caractérise ma qualité de citoyen français que vous partagez et que je partage avec vous. Donc bien entendu, ces interpellations font suite à des comportements que la loi réprime. Et à ce titre-là, il est juste que la loi les réprime, et même d'une sanction ou de sanctions adaptées, c'est-à-dire sévères. C'est d'ailleurs, dans le parquet dans lequel j'exerce mes fonctions, une directive qui a été donnée et qui correspond d'ailleurs aux infractions commises. Et ces infractions sont traitées par une procédure rapide qui est celle dite de la comparution immédiate. Et ceux donc qui se livrent à ce genre de sport se voient rapidement sanctionnés par les peines adaptées. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'explications sur des types de comportements, mais ces explications, dans les cas d'espèce, je dirais même des explications ne peuvent pas à tout propos être énoncées, surtout lorsqu'on brûle une école ou qu'on brûle des institutions dont les jeunes gens de même âge que ceux qui commettent ces infractions en sont les premiers bénéficiaires. Pour le reste, on peut en discuter après, si vous voulez.
Alors, il y a peut-être une réaction.
Oui, bonjour. D'abord, je me présente, Monsieur Aboulaïd. Je suis un jeune de la Rainerie. Je suis très content d'ailleurs de vous rencontrer tous ici. J'en connais déjà certaines personnes. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous rencontrer, mais il y a quelque chose qui me... Je voulais répondre à ce que vous avez dit, monsieur. Je vais être aussi sévère que la justice. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui et non. Tout simplement, vous avez raison que tout doit être réprimé, certes, selon le cas et tout. Et là, tout d'un coup, vous savez que c'est pas la... On pourra dire... Moi, je dirais que ce qui s'est passé au Mirail, à la Rainerie, c'est comme une grosse manif. C'est une manif, c'est une manifestation de désaccord. Désaccord envers le gouvernement, envers un oubli qui dure depuis quand même pas mal d'années. C'est une grosse manif. Oui, une énorme manif. On n'est pas les premiers à manifester. Il y a bien aussi les marins. Il est arrivé que EDF a manifesté, a fait des coups aussi énormes que nous, quelquefois, dans certains cas aussi. A brûlé aussi des pneus, a brûlé des... ça leur est arrivé aussi de faire des casses, il faut pas croire, hein. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé aussi de la grève, vous savez, de la compagnie Corse. Ce qui s'est passé aussi, il y a eu des casses, il y a eu des véhicules brûlés, jetés à la mer. Ces gens-là n'ont pas eu les mêmes rapports à la justice aussi, il faut dire. Bon. Brûler une voiture, oui, c'est quelque chose de très négatif. Vous avez tout à fait raison, c'est contre la loi. Je suis ancien emploi jeune de la police nationale. Sur les règles, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a une justice à deux vitesses, celle qui recule et celle qui avance. Et certains politiques, je vous ne le cache pas et vous le savez tous, ont déjà détourné des millions d'euros sur le dos du contribuable. Et à eux, on leur a donné du sursis. 18 mois de sursis et beaucoup de sursis. Certains, carrément, ont été élus. Je dirais pas les personnes. Si, allez, moi j'y vais, moi, je suis assez franc. Un certain Pasqua, qui devait normalement passer en justice, et qui, quand est passé Sénat, bizarrement... C'était pas bizarre, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, en France, c'est une habitude. Quand une personne, un haut personnage politique, quand même, qui a fait de graves choses, c'est-à-dire du trafic d'armes en Angola, c'est-à-dire quand même, moi, en tant que personne, en tant que jeune homme de la Rainerie, en tant que citoyen français, ancien policier, quand je vois qu'un ancien ministre a fait quand même un trafic d'armes en Angola, et qui est en plus maintenant sénateur, je me permets de dire sénateur, en France. Comment voulez-vous dire à un jeune de la cité qui est citoyen, moi, électeur, quand même électeur, qui était volontaire service dans l'Outre-mer, qui était dans la police nationale, comment voulez-vous lui dire maintenant, oui, il faut des peines exemplaires. Moi, la peine exemplaire à M. Pasqua, hein, c'est quoi? C'est à la prison, casse départ. Et là, je peux dire, oui, si je brûle une voiture et que je suis accusé, oui, et que j'ai une peine, oui, je l'assume, c'est vrai, j'ai fait ma connerie, j'avoue. Maintenant, quand on voit certains ministres, c'est quand même assez bizarre, monsieur, non? Vous ne trouvez pas?
Écoutez, bon, monsieur, je vous laisse la liberté de vos propos. Moi, j'ai été invité ici, j'en suis ravi, même très honoré.
Je parlais contre vous.
Attendez, je suis bien de votre avis, mais j'aurais bien aimé que vous ayez quelque chose contre moi, parce que j'aurais pu vous répondre. quand vous avez des critiques telles que vous les formulez à l'écart de ces hommes politiques, vous avez votre liberté d'opinion, dont vous assumez les propos. Moi, on m'a invité aujourd'hui ici pour parler d'événements très précis. Leur cause, leur sanction, leur explication. Et si vous étiez policier, monsieur, moi j'ai commencé par faire du béton maigre et du béton gras, vous voyez. La vie, je peux vous en parler, et les autres éléments également. Donc si vous voulez, si le débat doit porter sur les événements, je suis parfaitement votre homme, j'allais dire. Si c'est pour formuler ce genre de propos, vous en êtes maître et libre, mais moi je ne peux pas vous y répondre, vous le comprendrez très bien. Moi je suis dans une institution, elle est ce qu'elle est, on peut formuler critiques. Là où vous me parlez de justice à deux vitesses, là, c'est la liberté de vos propos. J'ai pas cette impression dans les tribunaux que je fréquente. Enfin, si vous voulez tenir ces propos, vous les tenez. Moi, j'ai des explications, des propositions d'explication sur ces comportements. Je réprouve totalement que l'on puisse brûler des écoles et des voitures. Alors vous me dites qu'il y a des espoirs qui ne peuvent s'exprimer de cette façon-là. Vous faites des comparaisons avec d'autres mouvement, vous parlez de marins, vous parlez d'autres. Je suis de votre avis. Vous évoquez, je suis de votre avis qu'il y ait de tels événements. Je suis moins de votre avis quand vous en faites la comparaison. Vous dites je suis électeur et ancien policier. Bon. Déjà, je vous aurais dit, restez dans la police, vous aurez amélioré au moins cette institution, puisque peut-être on n'aurait pas pu formuler à votre égard les critiques qu'on formule à l'égard de vos collègues qui sont restés policiers. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, si vous voulez, quand vous dites j'étais électeur, je vous dis, moi, monsieur...
Je suis électeur.
J'espère que vous le resterez longtemps, monsieur, et toujours. Je vous dis simplement, c'est que d'autres ont des vocations à l'être et ne font rien pour l'être. Et parmi, malheureusement, des jeunes gens... qui sont de ceux qui ont fait ce dont on est en train de parler, des délits, voire des qualifications criminelles. Et donc, si vous voulez, la République française a une constitution, la dernière en date, elle est du 4 octobre 58, et dans son article 1er, elle comporte des quand même éléments aussi valables que ceux qui étaient frontispice de certains monuments, à savoir liberté, égalité, fraternité, et ça, on peut en parler ensuite. C'est surtout de dire qu'elle est démocratique, sociale, et, etc. Donc, à partir de là, elle permet toute forme d'expression, toute forme d'opinion, d'ailleurs vous venez en faire la preuve, sans que pour autant ça constitue un délit, sauf si M. Pasqua a entendu ce que vous avez dit et qu'il entend vous poursuivre en diffamation. C'est son problème et c'est pas le mien. Donc je voulais vous parler d'électeurs et je voulais vous dire, puisque si vous avez cru que je critiquais cette forme de manifestation, vous avez eu raison. Je vous dis que quand on est dans la citoyenneté, on assume à part entière ses droits et obligations. Premièrement, vous dites j'étais électeur, je vous félicite. Parce que il y a dans beaucoup de jeunes gens, on a l'air parler d'étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers, d'abord, dans ces événements. Et il y a, si vous voulez, une potentialité de plusieurs millions d'électeurs, potentialité, en France. Eh bien, vous avez parmi cette potentialité de plusieurs millions d'électeurs, peu qui ont eu la faiblesse ou le courage d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Mmh. À partir de ce moment-là, monsieur, on a une possibilité citoyenne d'aller voter. Et quand on va voter, on exprime un vote. Ensuite, dans le cadre des lois républicaines, il est possible de faire des manifestations silencieuses, de remplir les rues sans casser des voitures ou des écoles, d'être entendu par les braves gens. Et je ne sais pas en quoi, monsieur, on arrive à prouver quoi que ce soit en brûlant la voiture de chômeurs ou de braves gens qui en ont besoin comme outil de travail. Je ne sais pas en quoi on arrive à sensibiliser qui que ce soit, si ce n'est les administrations qui ont en charge de rétablir l'ordre, de faire en sorte qu'ils mettent tout moyen utile pour que cet ordre soit rétabli. Et on n'aura pas pour autant, si vous voulez, en brûlant des voitures ou des écoles, fait en sorte qu'on ait fait avancer d'un pouce l'espoir dont ces jeunes gens ont envie, si vous voulez, ou diminuer le désespoir dont ils se sentent envahis. Et je vais vous dire, monsieur, une chose, pour ne pas être trop long, je l'ai déjà été, c'est que dans notre société, il est plus difficile de lutter contre la résignation des jeunes gens dont, ou pour lesquels vous pensez parler, parce qu'ils sont persuadés, comme vous semblez l'être, que la loi est raciste, que la loi fait des ségrégations, des discriminations, et qu'en réalité, on n'a qu'une seule solution pour se faire entendre. Il n'y a que ça, dirait l'autre, c'est de casser ou de brûler des voitures. Eh bien, moi, je vous dis non, monsieur. Il y a d'autres moyens dans la loi et dans la République pour exprimer des droits à condition qu'on assume quelques obligations. Ceci étant, dans la même loi, monsieur, je vous parle en juriste, hein.
Tout à fait.
Je ne vous parle pas en politique. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez des lois qui prévoient ne serait-ce que l'élément qui caractérise les infractions telles que les discriminations au logement, à l'embauche, au loisir, il me suffit, monsieur, de recevoir un dossier avec des preuves suffisantes pour condamner les auteurs de ces infractions et je vous garantis qu'ils ne recommenceront pas. Je l'ai récemment fait pour quelques dossiers. Or, le malaise vient de ce que beaucoup de jeunes gens sont probablement victimes de discrimination, probablement victimes d'un malaise qui est réel. Mais malheureusement, sur une année, je n'ai pas 10 dossiers de discrimination sur mon bureau. Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire que ceux sur lesquels, ou sur les points sur lesquels vous semblez être en désaccord avec moi, vous avez parfaitement le droit de l'être. Mais vous semblez bien informé en tant qu'ancien policier, ce que je vous invite à faire. et vous serez beaucoup plus utile. Que, non, mais je vous dis ça. Et c'est un conseil parce que j'ai 60 ans et vous en avez largement la moitié. C'est de faire en sorte que les jeunes gens victimes de certaines réalités des discriminations puissent constituer de véritables dossiers et vous, anciens policiers, vous leur fournissez des éléments utiles pour qu'ils apportent des preuves suffisantes et qu'à ce titre, moi, vice-procureur de la République, je fasse condamner les auteurs de ces infractions. Et très probablement, on ramène des gens à, si vous voulez, la confiance en la loi. Parce que la loi républicaine n'est pas raciste. Elle n'est pas discriminante. Il y a peut-être des justiciables qui l'appliquent mal. C'est pas impossible. Il y a peut-être, si vous voulez, des gens qui discriminent. C'est probable. Mais donnez-moi au moins les éléments pour que je puisse condamner les auteurs de ces infractions. Mais la loi républicaine n'est pas raciste. Je vous le dis et je le maintiens.
Alors, Jacques-Claude Catala pour Radio Montpaïs, monsieur le vice-procureur, vous dites il y a d'autres moyens d'expression. Étant bien entendu qu'on n'est pas là pour faire l'apologie de la violence qui a eu lieu ces dernières nuits. Mais ceci dit quand même, quand vous dites il y a d'autres moyens, la manifestation, moi je vous donne un exemple. Et c'est souvent ce que disent les jeunes, moi je suis pas leur porte-parole, il y a des gens qui sont dans les quartiers qui pourront en parler. En 2003, plus d'un million de personnes ont manifesté contre un projet de réforme des retraites. Ça n'a rien donné, il était passé quand même. Un peu plus tard, un aussi grand nombre de personnes ont manifesté dans la rue pendant plusieurs semaines contre une réforme de l'assurance maladie. Ça n'a rien donné. Quel exemple ont ces jeunes des autres moyens d'expression et finalement de ce qu'ils peuvent donner ?
Je peux comprendre le désespoir, monsieur. Je peux fort bien le comprendre. Je ne vais pas vous faire la réponse, celle qui est souvent faite par d'autres et qui peut-être est aussi à prendre en compte. À un moment donné, des gens ont juridiquement tort parce qu'ils sont politiquement minoritaires. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les gens, si vous voulez, obtiennent des réponses par rapport à des vœux exprimés dans une urne. Ce n'est pas de ma faute, ça, si vous voulez. Bon, ça, c'est la réponse un peu bateau, si vous voulez, mais ça n'est une, qui n'est quand même pas négligeable. À un moment ou à un autre, des gens décident, et s'ils décident, c'est parce qu'ils ont une représentativité nationale accordée par des électeurs. Donc, ça, c'est un fait, mais je n'irai pas plus loin. Vous comprenez que mon obligation de réserve ne m'empêche pas d'aller plus loin dans une option politique, quelle qu'elle soit. Et je crois, si vous voulez, que s'agissant de ce que vous avez dit, on peut effectivement retenir votre remarque qui est plus que pertinente. Mais pour autant, est-ce que ça peut expliquer des extrémités telles que celles qu'on a vues ces jours derniers ? Moi, je n'en suis pas certain, étant précisé que la réalité du désespoir est probable, même certaine. Et je dois vous dire, monsieur, que quand j'étais petit, on me disait toujours, et on m'a toujours dit, et mon père en premier, paix à son âme, « Toi, mon fils, quand je suis arrivé en France, il y a bientôt 55 ans. Toi, mon fils, on te demandera toujours plus. » Et j'ai commencé à faire du béton, et j'en suis fier. Et je suis arrivé vice-procureur aussi. Alors, on dit mes respects. Mais je ne suis pas plus pour autant, si vous voulez, à me considérer plus qu'un autre. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire à mes enfants, j'ai trois filles, vous, mes filles, on vous demandera toujours plus. J'aimerais ne pas pouvoir le leur dire. Et je ne leur ai pas encore dit. Et je suis presque sûr que dans la loi de la République, il y a moyen pour motiver mes filles et les enfants d'autres personnes pour faire en sorte qu'ils obtiennent de la loi ce que leur seule qualité et leur valeur le fera obtenir. Et je crois qu'en France, il y a suffisamment de gens de bonne volonté pour leur faire bénéficier sans pour autant qu'ils aient à fournir une prestation supplémentaire que d'autres. Ça, c'est une réalité. Je crois qu'il faudra effectivement renforcer cette capacité à démontrer qu'on est aussi bien que d'autres, si ce n'est pas mieux, quand on est d'origine différente ou quand on est des parents d'origine différente. Ce que vous avez dit tout à l'heure, je le comprends fort bien, monsieur, mais je ne crois pas que ça soit spécifique à une origine ou à une autre. C'est quasiment les conflits sociaux qui sont pratiquement dans tous les pays. Et on peut le regretter tous, qu'à un moment donné, il faut effectivement qu'il y ait des manifestations d'une certaine force, voire virulence, pour qu'il y ait peut-être une option au dialogue. C'est fort possible, ce que vous dites. Mais je ne peux pas, moi, dans le cadre de mes fonctions, pouvoir donner même une justification à ce qui pouvait, dans un acte peut-être désespéré, entraîner la mort d'enfants ou autre. Je ne peux pas, si vous voulez, chercher la moindre explication quand on sort des gens d'un autobus, qu'on y met le feu au risque de tuer un handicapé. Je ne peux pas faire ça, vous comprenez ?
Justement, monsieur le procureur, vous êtes terrible en radio parce que vous êtes un fabricant de tunnels. Je ne sais pas si vous étiez dans le béton, mais là, vous avez une expression d'ailleurs très cohérente et intéressante et très instructive. Mais en même temps, j'avais des questions à poser aux gens qui sont autour de la table.
Je suis désolé de m'en parler.
Je salue l'arrivée de Monique Iborra, vice-présidente du Conseil régional. Je voudrais demander aux personnes qui sont dans la salle, et dont certains sont des riverains des quartiers où il y a eu des troubles, la façon dont ils perçoivent ce qui s'est passé, à la fois au niveau d'une explication des causes, des hypothèses. Hein, on a parlé de l'inégalité de traitement entre les nantis, les élus et puis des gens du peuple qui seraient traités par la justice différemment. Mais il y a d'autres explications que vous allez certainement nous donner. Et en même temps, j'aurais aimé avoir, mais on pourra le faire dans un deuxième temps, votre jugement sur la forme que prennent les révoltes, hein, les émeutes, à savoir est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce que vous feriez différemment, est-ce que vous y avez peut-être pas participé, mais est-ce que vous les comprenez de près ou est-ce que vous êtes très critique. Donc voyez un peu pourquoi, les différentes raisons, on sait qu'il y a l'inégalité, on sait qu'il peut y avoir le racisme, on sait qu'il peut y avoir le désespoir, mais il peut y avoir d'autres causes, et ensuite les formes que ça prend. Et puis nous, vers la fin de l'émission, il faudra essayer de voir si on peut voir, en rapprochant les points de vue, découvrir la perspective d'une évolution qui serait une sortie par le haut. Mais là, rien ne le dit, c'est la discussion qui nous le dira. Alors, messieurs, autour de la table.
Bonjour. Donc moi, je vais parler en tant que responsable associatif. J'ai eu l'honneur de travailler avec M. Bélancel sur pas mal de dossiers, pas mal de choses. Et après, comme habitant de quartier aussi. Après, j'habite chemin de Mirail, donc je ne suis jamais sorti de Mirail, j'ai jamais voulu sortir de Mirail. Vous savez, monsieur, avant de commencer de parler, je voudrais commencer par une formule que je répète assez souvent. Le présent, c'est ce qu'on a semé dans le passé, et le futur, c'est la récolte du présent. C'est simple. Les gens, pendant des décennies, et même si je prends rien qu'à partir de 98, suite à l'incident qui s'est passé, où un jeune de Mirail, malheureusement, il est mort, suite à des blessures assez graves, il y a eu beaucoup de promesses. Et la situation s'est dégradée de plus en plus. Et on a essayé, nous, responsables associatifs, d'apprendre aux gens de quartier de faire du citron amer un jus sucré. Mais malheureusement, on ne peut pas continuer à leur apprendre ça. Il y a les inégalités, problèmes de logement. Comme j'ai bien expliqué l'autre jour à la Dépêche, je peux vous y amener voir des familles de 9 personnes dans un T3, monsieur. Où les jeunes restent dehors à manger un sandwich, le temps que les frères et sœurs dorment pour qu'ils puissent dormir dans la salle à manger. Le père, on ne peut pas lui donner un appartement plus grand parce qu'il n'est pas solvable. Après, il y a un problème de travail. Il y a un problème où on promet aux jeunes rien qu'un accompagnement au niveau des stages qui sont gratuits. Une fois dans une réunion publique, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Je préfère donner des faits réels. Un jeune de 16 ans se lève. Et il pose une question suite à la loi de Nudic où les gens ils ont perdu beaucoup de mois d'indemnisation par les acidiques, ils se sont retrouvés en fin de droit au RMI. Un jeune de 16 ans qui se lève, il dit voilà, j'ai une question à vous poser et personne n'a répondu. J'ai ma soeur qui a 8 ans, mon petit frère qui a 10 ans, j'ai 16 ans, mon père il a plus de 52 ans. Ça fait plus de 38 ans qu'il est en France et c'est ni lire ni écrire le français alors qu'on lui avait promis un accompagnement. Il a des lacunes, pas de qualification professionnelle, il n'a aucune chance de retrouver de travail. Quel est notre avenir à nous? Donc je dois devenir délinquant pour pouvoir faire vivre ma famille, ça aussi. Après on parle de grands projets de ville, ça aussi c'est un grand projet de ville. Mais on aurait aimé voir la proximité qu'ils ont promis dans leur campagne électorale, que ce soit à droite ou gauche, et voir comment élaborer ensemble avec eux un projet de vie. Malheureusement ça n'a pas été le cas. On parle de quartiers où le taux de chômage dépasse les 40%. Et sur les 40%, plus de 60% sont au RMI. Et des familles nombreuses. L'échec scolaire, vous savez que le collège de Rennery, c'est parmi les derniers collèges de France. On réussit son brevet de collège. Voilà. Ça, c'est un échec. Et donc, toutes ces problématiques, on a essayé de les porter, d'alerter les pouvoirs publics, d'alerter les financeurs, etc. L'écoute n'a pas été attentive. C'est ça le problème.
Mais après, vous pensez qu'on est arrivé à un seuil particulier parce qu'il y a un facteur déclenchant dans l'explication, puisqu'on est dans les premières questions que nous nous posons. Le facteur déclenchant dans un climat extrêmement morose, désespéré, qu'est-ce qui fait, vous qui voyez des jeunes autour de vous, vous-même, je vous sens extrêmement anxieux, tendu, préoccupé, en colère sans doute. Je vous comprends.
Pas vraiment, d'une autre manière.
Mais d'une autre manière, mais... Qu'est-ce que vous sentez dans l'esprit des gens que vous voyez autour?
Je vais vous dire, monsieur. Je vais vous donner aussi une autre image. Avant ces événements, le quartier il a été assiégé plus d'un mois, début de l'année 2005. Alors, ce que j'ai dit, moi, à la jeunesse, j'ai dit, c'est simple. Au lieu de se révolter, les quartiers de Toulouse, la commune de Toulouse, elle fait à peu près 427 000 habitants. Les quartiers, ils font 102 000 habitants en moyenne. Sur les 102 000 habitants, il y a 17% qui ont une carte de séjour. La plupart, c'est des Français. Malheureusement, il n'y a même pas 11% qui sont inscrits sur les listes. Je dis, c'est simple. Le gouvernement actuel, il a promis une certaine sécurité à certains citoyens qui ont voté pour lui. Donc il est obligé d'y répondre. Et quand vous ne votez pas, donc on ne peut pas vous conquérir. C'est pas intéressant. Mais j'ai dit, si demain on met des colonnes de personnes devant les mairies annexes pour s'inscrire, dire voilà, je voudrais me préparer pour voter pour 2007 ou 2008, on va enlever la police, on va envoyer des médiateurs pour arranger le problème. C'est ça. Les gens n'ont pas été considérés. Les gens, tout ce qu'ils ont fait pour ce pays, comme il a dit M. Bélassel, on nous a toujours demandé de double effort. Je vais vous dire quelque chose d'autre, monsieur. Pendant, ça fait 13 ans que je suis sur le quartier, il y a eu 98, un malheur terrible, qu'on paye encore. Après, il y a eu la politique de la ville, ils ont essayé d'améliorer les choses. M. Bélassel est arrivé sur Toulouse, il a commencé à se charger de la politique de la ville. Mais grand malheur après. Parce que c'était le seul qui représentait la justice qui était là jusqu'à minuit, monsieur. Et je peux vous dire qu'il y a des dizaines de témoins qui venaient pour parler avec les jeunes, parler avec les commerçants, parler avec leur conduite, essayer d'arranger les problèmes, demander s'il y a des problèmes, vous venez me voir, il y a d'autres moyens de revendiquer les choses, suivre la loi, la faire appliquer, etc. Malheureusement, on a décidé d'enlever la politique de la ville. Pour X raisons, je ne sais pas, monsieur. Alors que la personne était efficace. Deuxième chose, monsieur, la police proximité. On peut être contre une politique, mais quand il y a des projets qui marchent, il faut les soutenir. Hier, j'ai dit à faire 3. Vous allez au commissariat de Bellefontaine, vous choisissez telle et telle et telle personne pour ne pas citer les noms. Vous, les CRS, vous ne pouvez pas rentrer, mais ces personnes qui sont policiers, qui appartiennent à l'institution de la police, je peux vous dire qu'ils peuvent venir serrer la main tous les jeunes en bas d'immeuble, et ils passeront très 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 bien.
Oui, excuse-moi, je mets une parenthèse, la criminelle est venue à discuter avec nous, il faut le dire, je tenais à le dire quand même. Ils sont venus, ils ont discuté, il n'y a voilà. Aucun problème.
Voilà. Attention. Parce que je vais vous dire, concernant les policiers, les proximistes, c'est des gens qui ne faisaient même pas rien que le travail de la prévention, etc. Mais au contraire, il y a des proximistes qui ont aidé des jeunes à trouver des stages, à trouver un logement, à trouver un travail. Et ça, c'est un travail de fond. Et comme j'ai dit à M. Soutric la dernière fois, monsieur, vous et moi, nous sommes remplaçables, mais l'institution publique, non. Donc, on ne veut pas créer de haine entre la police et la jeunesse. On doit sauvegarder notre police. Et celui qui porte le casque le soir, le lendemain matin, c'est un père de famille. Qui amène ses enfants à l'école, qui paye ses impôts, paye ses loyers, et parfois il subit doublement la peine de la loi quand.
Mais actuellement, est-ce que vous pensez, vu l'état d'esprit des gens que vous voyez autour de vous, qu'il y a une perspective de réconciliation possible, compte tenu de l'état d'esprit, je ne parle pas peut-être pour ce soir, mais enfin, quelle est la piste pour discuter de quelque chose avec les gens qui, au fond, ont tracé une ligne par terre en disant « je ne suis pas du même côté que vous ».
D'abord, je vais donner une observation sur mon ami ici. Je suis rentré dans la police nationale grâce à la police de proximité qui m'a fait rentrer. En fait, on a fait un match de rugby. Le célèbre rugby. Vous vous rappelez quand M. Sarkozy est venu à Toulouse, il a dit « on n'est pas là pour faire du social, pas faire de match de rugby, mais pour la répression et pour tout ». Je vous dis pas la suite, hein, on connaît tout le monde, d'accord. On connaît tous la suite de l'égalité, fraternité, et j'en passe. Grâce à ça, je suis rentré dans la police nationale. Moi, égalité, fraternité, je savais depuis longtemps que c'était un doux rêve. Douce France, moi j'appelle ça, douce France. Il y a très longtemps que ça. Il faut être réaliste, messieurs. Égalité, fraternité, j'ai jamais vu en France. J'ai 29 ans, je me rajeunis, excusez-moi. Égalité, fraternité, ça n'existera jamais dans ce pays. Et ça, qu'on le veuille ou non, il n'y aura pas. Tant que les institutions ne se réveillent pas, tant que les gens et les citoyens, quels qu'ils soient, tant qu'on n'a pas un réel contact, et là j'en reviens à une des solutions, quand on n'a pas de contact et avec les gens principaux comme le président de région, le président de la République, les ministres, ça c'est intéressant. On peut avoir un vrai dialogue si les gens qui sont en face de nous sont honnêtes et font les choses. Moi je parle d'humain à humain. J'ai l'impression parfois, moi, quand je parle avec certains politiciens, que c'est du vent. Il faut arrêter maintenant, je suis majeur et vacciné, de nous prendre pour des jambons. Sincèrement. Parce que ce qui m'a beaucoup déçu, et ce qui m'a surpris aussi, c'est que je suis content que vous soyez venu, monsieur. Ici déjà, que vous soyez là, que tant d'autres, certains partis politiques, malgré tout, même si je suis apolitique, sont venus dans le quartier un peu trop tard. Parce que j'avais ça, vous savez comment je leur ai dit, hier soir il y avait une réunion, et monsieur, mon ami était là, j'avais dit, c'est ici, c'est la Louisiane française. Alors aux États-Unis ils ont la Louisiane, ici on l'a aussi, c'est-à-dire les quartiers, sauf que c'est gigantesque, c'est... Mais comme dirait le président, abratamantesque. J'arrive même du mal à le dire tellement que c'est un mot qui m'horripile. Maintenant, oui, il y a une solution, c'est la communication, tout le monde le sait.
Alors,
d'accord.
Vous avez l'air de penser, sans doute Madame Iborra qui a été interpellée en tant que femme politique, va voudra vous répondre, mais vous semblez quand même, dans votre formulation, penser que des éléments de solution sont dans le rapport entre la population et l'État. Vous n'évoquez pas les problèmes généraux de l'économie. Je regardais votre âge, et c'est vrai que vous n'avez pas de chance, parce qu'on dit qu'à peu près, c'est à peu près autour des années 1975 que l'inégalité a recommencé de progresser en France, alors que depuis la libération, c'était plutôt le phénomène inverse qui se produisait. Moi. Donc il s'agit de savoir si les entreprises peuvent intégrer dans le monde du travail l'ensemble de la population, ou simplement 70%, 75% de la population. Ça, c'est une question qui dépasse la bonne volonté du parti ou de l'élu. Et donc là, il y a néanmoins une action publique à mener. Donc c'est une question très complexe. Et donc, je n'ai pas de point de vue, mais je voulais juste signaler qu'il y avait plusieurs dimensions à la solution ou à son absence, ou à sa difficulté.
Alors moi, ce qui est bien, c'est que je suis un exemple assez frappant. J'habite dans le quartier, d'accord. Je suis une personne de la Rennerie, je suis RMiste, et j'ai deux diplômes dans l'aéronautique. Quand même, Toulouse qui est un pôle de l'aéronautique. Vaste blague aussi, là aussi. Vous voyez, j'ai des points positifs, je suis positif dans ma vie, c'est ça qui est quand même formidable. Dans tout ce négatif, j'ai du positif, je ne lâcherai pas l'affaire, et j'irai, comme vous dites, on doit faire trois fois plus, et même plus que deux fois plus, trois fois plus d'efforts pour réussir. J'en ai 29, et j'ai pas encore trouvé de travail, vous imaginez ? Eh bien, ça fait rien. Je me battrai, je lâcherai pas l'affaire. Eh bien, je répondrai juste, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Vous savez, quand vous avez dit casser des voitures, c'est inadmissible, vous avez raison, monsieur. Mais le problème, et le seul langage que connaît quelque part l'État, c'est la violence. Et la preuve, je vous ai dit simplement, c'est qu'il est malheureux. Mais l'État lâche des sous. L'État se réveille. L'État fait des promesses. Enfin ! Alléluia ! Mais prions, messieurs, dames. Prions. Ils font enfin des... Ça y est, ils se réveillent. Ah, mais il faut qu'il y ait des choses qui brûlent, des gens qui meurent, pour qu'enfin on se réveille en France. Liberté, égalité, fraternité.
Justement, alors,
est-ce qu'on donne la parole
parce que les
représentants de l'État, il y a l'élu de la République. Donc, Madame Iborra, votre première réaction.
D'abord, ma première réaction, c'est de vous remercier d'avoir pensé aux politiques, d'avoir pensé à la région, qui n'a pas la prétention à elle seule de représenter toutes les institutions, bien entendu, puisque quand on est élu régional, on est d'abord responsable de la politique régionale qu'on mène, et qu'en France, vous savez bien qu'il y a, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, différents niveaux d'intervention. Il y a l'État d'abord, le gouvernement pour lequel qui a été élu. Et qui donc applique une politique. Il y a ensuite les institutions qui elles-mêmes, maintenant conseil général, conseil régional, sont élues au suffrage universel. Et puis, évidemment, il y a les services de l'État. Donc moi, merci de m'avoir associé, d'avoir associé la région à votre débat. Et c'est bien normal parce que je crois qu'il est important que les élus soient représentés, même si je déplore que je sois la seule aujourd'hui. Mais bon, que les élus soient là, mais que des élus sont aussi des citoyens, quoi. Et que, au-delà même du fait qu'on est élu, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester sans se poser de questions, a fortiori quand on est citoyen, mais aussi évidemment quand on est politique. Alors, sans doute, je ne vais pas recommencer à dire sans doute ce qui a été dit, à savoir que si c'est pour dire on est contre les exactions, on est contre la violence, je crois qu'on ne peut pas, en effet, et vous et nous, accepter en effet cette forme d'expression, même si, parce que c'est une forme d'expression, même si on considère en effet que à un moment donné, il y a un certain nombre d'éléments qui font que, disons, la marmite boue, elle boue, elle boue, elle boue, et puis hop, ça saute. Ceci dit, je pense que, en effet, ce qui est important, c'est qu'on essaie d'en voir les raisons, d'analyser avec sérénité et en positif. Évidemment, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui n'y sont pas toute la journée que pour ceux qui y sont toute la journée. Mais je crois, et là, moi, je veux rendre vraiment hommage, mais sincère, aux associations qui œuvrent dans ces quartiers, parce que si les associations n'existaient pas, il n'y aurait pas de présence, pratiquement pas en tout cas, de présence d'institutions publiques dans ces quartiers. Et ça, c'est le premier inconvénient. C'est le premier problème qu'on rencontre. On ne peut plus laisser les associations seules assumer la responsabilité publique. Et dans ces quartiers, pas pour la totalité, mais pour une grande partie, c'est quand même cet environnement. Donc ça, il faut essayer de voir en effet quelles sont les nouvelles méthodes d'intervention que nous avons. Alors, par rapport à ça, je crois que, justement, ce qu'on peut reprocher, je ne veux pas faire de la politique politicienne en disant « la région n'y est pour rien, c'est la faute du gouvernement », etc. On n'est pas pour dire ça aujourd'hui. Néanmoins, quand le gouvernement, à qui on s'est adressé plusieurs fois, le président de région s'est adressé plusieurs fois au gouvernement en disant « attendez, vous arrêtez tout financement aux associations, si vous ne le remplacez pas par autre chose », étant donné que l'action publique dans ces quartiers, elle dépend beaucoup des associations, que va-t-il arriver ? Ben, c'est arrivé. Donc, on constate en effet maintenant que le gouvernement revient sur cette disposition, en espérant qu'il ne s'agit pas simplement d'une disposition en réponse à une explosion, qu'elle va être pérenne, on peut s'en réjouir. Néanmoins, elle ne suffira pas. Encore une fois, je crois que les associations ne peuvent pas, elles seules, prendre sur leurs épaules tout le malheur du monde, tous les malheurs du monde et toute cette concentration de difficultés, ce que se trouve dans les quartiers. Je crois que ça, c'est la première leçon, la première disposition que nous devons prendre. La deuxième, c'est de dire que c'est vrai que depuis 3 ans, et M. Sarkozy en est l'expression, je regrette, il ne s'agit pas du tout de faire de polémique ou de le montrer du doigt. Mais à part depuis 3 ans, la politique de la ville, c'est reconstruction, démolition, et je crois qu'on en avait besoin aussi de rénovation. Mais c'est surtout ça, donc surtout des opérations immobilières, et puis la répression. Et puis comme on a coupé les crédits pratiquement aux associations, l'accompagnement qui est nécessaire, qui n'est pas suffisant, hein, parce qu'on ne pourrait pas, quand on est politique, on ne peut pas se contenter de ça en disant c'est les associations qui s'occupent des difficultés, c'est sur elles que reposent, on les finance pour ça. On ne peut pas le dire néanmoins. Quand on n'a même plus les associations présentes sur le terrain pour assurer cette présence publique, eh bien évidemment on s'expose à des choses qui sont un peu celles que nous avons vécues. On doit passer à autre chose. Et la première des choses, me semble-t-il, hein, c'est évidemment, alors ceci, que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est évident. Hein. On doit, je pense, remettre au cœur du débat la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est au-delà des paroles, ça passe aussi par des actes, y compris en matière de démocratie, y compris en matière de possibilité de droit de vote. Moi, je le dis, hein, je le dis, je crois qu'on devra arriver à ça, parce qu'il nous faut tous être des citoyens responsables avec des droits et des devoirs. Les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir que des droits, on ne peut pas avoir que des devoirs. Et c'est autour de ça, entre autres, hein, que nous devons travailler sur la citoyenneté en général et les moyens qu'on donne pour être citoyen.
Merci Monique Iborra. Donc avec vous, après la coupure, on parlera sans doute du GPV qui concerne ces quartiers qui ont eu des difficultés. On va faire une petite pause avec Majid Cherfi et on va le citer. Les jeunes qui ont un nom à consonance arabe vivent dans une France qui leur dit non à l'emploi, non dans les boîtes de nuit, non pour un logement ou alors au Mirail. Le discours de Chirac sur le bruit et l'odeur a fait partie de toutes ces petites choses qui ont contribué à la fracture sociale. Voilà, une parole d'un homme.
Les filles étaient bonnes, on l'avait mauvaise. Nous on les prenait pour des chaises, assis sur elles comme des éléphants. On était fins comme des jeux d'enfants. Elles étaient là, c'était la punition. On les voyait le temps d'une récréation. On aurait adoré tous ceux qui se lient, si seulement l'école avait des lits. Elles étaient belles, on était dans les bois, à croquer des tablettes de chocolat. Qu'on voulait partager, mais les frangines étaient à la cuisine. Le coup et la caresse, mais putain la brume était si épaisse que le jour et la nuit c'était pareil, on était l'ombre à leur soleil. Elles étaient bonnes, on n'était pas sucrées, elles étaient prêtes, on était dans le pré, quand on n'était pas entre quatre murs ou acheter des chats contre les murs. Et pour un geste, pour un tout petit oui, elles auraient fait un tour de voiture gratuit. On aurait tout fait pour leur plaire, ouvert un dictionnaire. Mais fallait bien qu'elles se défendent, qu'elles rient, qu'elles nous foutent les glandes. Oh, fallait pas qu'elles nous attendent, les grandes. De péter à mille lieues, mais le vertige dès qu'on quittait le milieu nous tournait la tête, car au chant d'amour on n'était pas qu'aveugle, on était sourd. Pourtant on aurait lâché nos rêves imbéciles, même le maillot du Brésil. Écoutez tout Mozart et qui dit mieux, mais on n'avait pas les yeux bleus, on les avait noirs, et pour le reste, c'était écrit, on prenait que des vestes. Et là, ça rate pas, c'est dans le sport qu'on a battu tous nos records. Moi, si j'avais entendu bien, ou même toi, je t'aime bien, j'aurais pas comme je l'ai fait, mis un coup de boule à ma fée.
On se sent concerné parce que nous sommes français, nous sommes nés sur le territoire français. On dit liberté, égalité, fraternité. La fraternité pour les gens qui en ont, et pour les gens qui sont déshérités, on les laisse tomber.
Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes, d'abord, ce sont des gens issus d'ici. C'est pas issus de l'immigration. Ce sont des Français à part entière. Ils connaissent pas le pays de leurs parents. Ils vont peut-être occasionnellement une fois par an pour passer des vacances, et encore quelles vacances? Le plus souvent, pas avec leurs parents. Donc ce sont des gens, des Français à part entière. Si ils font maintenant des bêtises, c'est qu'on ne leur a pas donné les éléments ou les instruments nécessaires pour pouvoir voir la France autrement.
Nous, on est venus aussi un petit peu pour leur dire, ça suffit maintenant, calmez-vous, rentrez chez vous. Et on espère qu'on vous a écouté, qu'après... le calme, la discussion avec des gens que vous allez, qui vont vous représenter, que vous allez déléguer. Et voilà, bon. Maintenant, la cause, elle date pas ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni, ça fait plus de 30 ans. Leurs parents, déjà, ils ont subi ça et tout ça, bon. À cette époque-là, c'était des illettrés et tout, donc ils pouvaient pas s'exprimer et tout. Et vu ce qui se passe à la télévision, donc Toulouse n'a pas été touchée. C'est dès qu'ils l'ont vu à la télé à Paris, tout ça, ils voulaient faire un petit peu pareil pour se révolter et tout. Et après, bon, nous, on a aussi nos élus, que ce soit de droite ou de gauche. Des fois, ils disent n'importe quoi, parce qu'il paraît que d'après ce qu'il a dit Sarkozy, il a été soutenu par la communauté européenne. Et le lendemain, il y avait en Allemagne, en Belgique, le feu, et il s'est propagé un petit peu partout. Donc c'est pour cette raison, on est là pour leur dire calmez-vous, ça suffit. Et maintenant, on va discuter avec les gens du terrain.
Et quelle relation vous avez avec ces jeunes qui...
Enfin, nous, on a des relations depuis X temps. Puisque je suis presque né au Mirail. Et si je parle comme ça, je parle en tant que papa aussi, parce qu'ils ont le même âge que mes enfants. Nous, on a subi ces problèmes-là. C'est pour ça, bon, maintenant, si vous voulez qu'on approfondit cette révolte et tout, elle ne vient pas que parce qu'un gosse il a jeté quelque chose ou pas. Bon, parce qu'il s'est jeté, il faut savoir pourquoi il a jeté. Et on n'est pas aussi là pour les faire... Et si je dis tout ça, c'est pas pour les faire pardonner ni rien. Nous, papa, parents et tout, on condamne ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont les premiers à être pénalisés une fois que le métro a été arrêté. Une fois que le métro a été arrêté à 15h, le bus arrêté, ils étaient obligés de venir à pied, les gens qui habitaient le Mirail. Donc ils étaient les premiers à être pénalisés. Les écoles, c'est eux qui les fréquentent. Quand on crame une école, c'est que tous les enfants, ils vont plus à l'école pendant un certain temps. Et une école au Mirail cassée, elle n'est pas prioritaire à être reconstruite de suite. Il faut attendre, parce que sinon, ils vont trouver des prétextes qui vont la cramer une autre fois. Il y a beaucoup de ces problèmes-là. Et les solutions, ça va venir. J'espère qu'ils ont été écoutés par la droite et la gauche, parce qu'il y a un yo-yo. Une fois, c'est la gauche qui prend le pouvoir, une fois, c'est la droite. Mais ni l'un ni l'autre a fait quoi que ce soit pour ces quartiers-là. Depuis des décennies. En été, quand ça a explosé, le soir, on était en train de les calmer. Il y avait certains partis politiques qui sont venus pour récupérer. On est en 2005, ils leur disaient, rappelez-vous ce qui s'est passé avec la droite. En 2007, votez gauche. Mais le problème, la solution, ils n'ont pas donné. Alors c'est un peu criminel ça aussi. Et je ne sais pas s'il y a d'autres...
qu'est-ce que vous répondent les jeunes ou les personnes lorsque vous leur dites maintenant est-ce que vous allez vous calmer? Est-ce qu'ils doivent avoir aussi
alors là, heureusement qu'on était là, Agora et d'autres associations, on a protégé les élus, ils peuvent vous le dire, sur les quartiers, parce qu'ils ont dit arrêtez de nous raconter des bobards et tout ça. Heureusement qu'on était là pour les protéger tout ça et leur dire changer de langage. C'est pas ce langage qu'il faut dire maintenant. Le seul langage que nous on a dit, c'est de vous calmer et rentrez chez vous. Il ne faut pas que vous soyez manipulés. Et après, une fois qu'il y a ce repos et cette trêve, là, on discutera avec tout le monde si vous voulez. Mais à chaud, et quand ils étaient en ébullition, il ne fallait pas les provoquer aussi. Voilà. Alors les jeunes, maintenant, ils veulent discuter avec les associations. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a que eux qui nous comprennent, il n'y a que eux qui sont sur le terrain.
Ils ont le sentiment qu'ils ont fait une sorte de victoire, qu'ils ont réussi à attirer l'attention, que ça a servi à quelque chose, ou qu'il faut continuer au contraire, que de toute façon ça n'a pas d'importance parce qu'on ne cherche pas une solution, on cherche...
On a rencontré un petit peu des murs, et ils nous ont dit c'est dommage, il fallait en arriver jusqu'à là pour que les gens viennent nous voir, nous écoutent et tout ça. Vous avez vu tous les caméras, presque du monde entier, ils étaient sur le Mirail, c'est dommage, il fallait venir avant... et expliquer, parce que la cocotte, elle bouillait, elle était en ébullition, ça ne date pas de la semaine dernière.
Hein. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qui peut nous faire penser maintenant qu'après ces événements, encore que bon, je dis après, ils ne sont peut-être pas terminés, on le souhaite ici tous, puisqu'il y en a qui est lancé, mais qu'est-ce qui peut faire penser que réellement leur appel, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est un appel, quoi, je veux dire, va être entendu, parce qu'il y a bien des relais qui vont être pris par les associations, et les gens qui sont là l'ont dit, sont prêts à le faire. Derrière ce relais qu'est l'association, il y a l'institution politique, il y a les décisions à prendre, il y a les lois à voter et il y a à veiller à leurs applications. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui dire autour de cette table, on va, bon, monsieur le procureur, oui, puisque bon, vous...
Non, ben, monsieur, vous parlez.
Moi, j'habite à Bellefontaine et les voitures qui sont brûlées, ça fait depuis longtemps. Tout le temps, on brûle des voitures. Et je me demande, quelle est la faute d'un simple citoyen, lorsqu'il se lève le matin, il veut aller à son travail, il trouve sa voiture volée ou brûlée. Bien que je comprends la révolte de ces jeunes, mais ces actes de vandalisme, on ne peut pas leur trouver des excuses. Ils doivent être réprimés, ils doivent être traités en tant que tels. Ces des actes de vandalisme doivent être réprimés. Et je suis tout à fait d'accord avec monsieur le magistrat. Donc on ne peut pas leur excuser, hein, les jeunes qui font ça. Ensuite, moi je ne sais pas, il y a une malaise, c'est vrai. Il y a un malaise dans ces quartiers. On les subit tous les jours. Moi-même, je suis victime. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Il y a d'autres moyens, fort heureusement, il y a d'autres moyens pacifiques qui nous permettent de s'exprimer et de revendiquer et de bouger, et de manifester et d'exprimer ses opinions. Le modèle républicain nous garantit cette liberté, fort heureusement. L'appartenance à la République doit être sur la base de l'adhésion à ses valeurs de liberté et d'égalité. Donc on a les moyens. On a les moyens pour s'exprimer, pour revendiquer, mais pas par la violence. La violence, ça ne peut, on ne peut pas remédier le mal par le mal. Hein.
Vous m'avez posé la question, mais je vais y venir et ce sera justement complémentaire, Moustapha. Si j'étais président d'association, hein, et par rapport à la question que vous avez posée, je crois qu'il y a toute une stratégie à continuer, voire à élaborer. Bon. Il y a manifestement une volonté politique de revenir sur les moyens à fournir aux associations parce que c'est indispensable qu'elles aient les moyens. Donc aujourd'hui, si on faisait un parallèle qui n'est pas à faire, mais on peut quand même se servir du passé pour éclairer l'avenir. Donc, mai 68, il y avait quand même, pour les pouvoirs politiques en place, un interlocuteur ou des c'est-à-dire des gens capables de donner des mots d'ordre pour aller dans un sens, dans un autre, ou d'arrêter. Aujourd'hui, dans cet éclatement, il n'y a pas d'interlocuteur. Et les seuls qui pourraient exister, ce sont les associations. Donc, ce tissu associatif, à mon avis, doit être aidé. Il ne doit pas s'agir que d'un mot lancé. Et encore, faut-il encore préciser quel type d'association. Alors, vous avez dans les villes, et c'est pas que je sois fondu dans un milieu associatif, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi pour que ma vie serve à quelque chose. Parce qu'un homme qui fait pas d'ombre n'existe pas. C'est comme ça. Un arbre non plus, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez des associations, encore faut-il savoir celles qui sont utiles à quelque chose, puisqu'elles reçoivent des subventions. Il y a, me semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu, des associations qui reçoivent des subventions et qui ne servent à rien. Ça aussi, on peut les dénombrer, il ne suffirait que de faire une enquête. Mais pour celles qui sont utiles, et il y en a aussi, et qui pourraient l'être davantage, il y a des moyens à leur donner. Alors que faire ensuite? Et c'est là où le président de l'association que je connais parlera. Je crois qu'il y a quasiment à faire du porte-à-porte, presque du porte-à-porte, des explications à donner dans les halls. Il y a peut-être des comités de quartier à faire, des comités de citoyennes de quartier à faire, pour donner des explications, pour redonner confiance en liberté, égalité, fraternité, pour expliquer la loi, pour faire savoir comment on constitue tel ou tel type de dossier, de tel ou tel endroit, comment saisir la justice, etc. Et donc, à ce moment-là, toutes ces démarches-là seraient utiles, à mon avis, pour redonner confiance à la loi républicaine et faire en sorte que, eh bien, le désespoir trouve un recours. Un recours, c'est-à-dire une oreille, une langue pour le conseiller, un guide pour l'orienter, et progressivement, si vous voulez, que au désespoir, eh bien, suive l'espoir. Et à partir de là, je crois, si vous voulez, que des associations qui recevraient la confiance des jeunes désespérés pourraient devenir de véritables interlocuteurs au pouvoir en place, qu'ils soient locaux, politiques ou autres. Voilà, mais je crois que Moustapha Bezidouli parlera beaucoup mieux que moi de cela.
Alors, je précise aux auditeurs, là, parce que c'est 17h, donc l'émission est terminée théoriquement, mais Fréquence Soleil est une radio libre, donc. Mais je pense aux 10 autres radios qui diffusent. Alors, on va essayer de faire un quart d'heure, d'essayer de donner parole. Je crois que Joseph voulait faire passer des voix et puis donner un peu, non pas des conclusions, parce que j'en ai tellement à chaud, je crois. Moi, je vous écoute. Je vois qu'il y a beaucoup d'attentes partout, mais des solutions, on ne sait. Il y a des propositions, certainement. Mais alors, donc, propositions, puis je crois que Joseph, tu voulais faire écouter des propos.
Alors, ce sont des propos, oui, qui ont été recueillis par Joseph hier dans le quartier de Bellefontaine. Et voilà, ça va arriver en résonance, donc on écoute, c'est sur le travail.
J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. Depuis 15 ans et demi jusqu'à maintenant, j'ai jamais travaillé. Jamais travaillé, il n'y a pas de travail. Ceux qui disent qu'il y a du travail, c'est pas vrai. Moi, je leur dis où j'habite qu'ils m'en ramènent du travail. C'est pareil pour tous. Pour tous.
Au quartier.
Quand ils nous trouvent du travail, la plupart du temps, c'est du travail pour chien. Ils n'ont jamais trouvé un travail normal comme les gens normaux. C'est normal. Et je voulais leur dire, ils disent c'est bien de faire des apprentissages pour ceux de 14 ans, ça commence pas à 16 ans. Mais nous, on n'a plus 14 ans, on n'a pas 16 ans non plus, on a 20 ans. On s'en fout de l'apprentissage. Nous, on veut du boulot, nous. On veut pas l'apprentissage. L'apprentissage, ça ramène 200 euros. 200 euros, c'est rien du tout. Je l'ai fait en 2-3 jours. On veut vraiment un bon boulot. Je sais pas, l'apprentissage, c'est rien. Je sais pas, je demande pas de faire comptable, moi. Je sais pas, derrière un ordinateur. Mais je sais pas, un bon travail au chaud.
J'ai travaillé ici, j'ai travaillé partout, il y a le travail. Dans tous les endroits, on est bien accueillis, on travaille. Si on a des idées dans notre tête qu'on veut travailler, on peut travailler. Mm-hmm. On peut travailler dans tous les endroits. Mais si on va mettre l'idée qu'on ne va pas travailler, on ne va jamais réussir dans notre vie.
Vous habitez où, dans quel quartier, quelle nationalité vous êtes? Même si vous êtes français, ils ne vous croient pas. Après, ils vous disent, ils voient par votre famille, par votre prénom, et on dira, on vous rappelle. On vous rappellera la semaine des 4 jeudis.
Voilà, donc c'est pas facile de faire un micro-trottoir et ensuite de choisir, mais il y a une forme de désespoir. Il y a aussi le commerçant, c'est la deuxième personne qu'on a entendue, qui lui a quand même une forme d'espoir. Voilà, quelqu'un veut réagir, Mustapha?
Vous savez, il y a des maladies très très graves comme le cancer, je l'espère pas pour les gens. On ne peut le déceler qu'à travers des douleurs très très dangereuses, très très graves, avec une grande souffrance, un peu trop tard. Donc l'explosion des quartiers, c'est à peu près ça.
Vague de violence, qui c'était vaguement un générique, mais voilà. Continuez.
Donc ça, ça peut refléter ça. Deuxième chose, il faudrait que les Toulousains, par exemple, quand on parle de Toulouse, ils sachent que le carré de Mirail, s'il fait à peu près 52 000 habitants, il y a 27% qui sont d'origine étrangère. Tiers-mondiste, pas européen. C'est important de le préciser. Ce qu'on demande, nous, pourquoi les politiques n'ont pas l'audace de faire une inscription automatique sur les listes électorales à partir de 18 ans, qu'ils votent une loi? Ça va déstabiliser un peu le champ politique. Deuxième chose, pourquoi on ne travaille pas sur une répression ciblée? Troisième chose, faire de la sanction un repère éducatif. Quatrième chose, j'étais effaré de voir une information sur LCP qui m'a été communiquée, où le ministre de l'Intérieur et le gouvernement parlent de l'UOIF qui a fait une fatwa. Depuis quand un pays laïque travaille sur des fatwas et pas sur des règlements et des lois? C'est très très grave. Très très grave. Et après, il y a ce qui est important, il y a une question qu'on voulait poser à M. Belhassen. Est-ce que le président de la République peut faire une amnistie pour les jeunes qui sont incarcérés et dire, voilà, à partir de telle date, si jamais il y a un débordement, si jamais il y a des actes de délinquance, etc., vous serez réprimés doublement. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont incarcérés, le gouvernement pourrait faire un geste, surtout le président de la République, envers ses familles et ses jeunes? Bien sûr, on fait une amnistie à condition que ces jeunes soient accompagnés. Et ça, c'est un travail de fond. Et excusez-moi dernièrement pour vous dire, les associations, ils ont leur utilité. Je vais prendre juste un point dans un océan, ou une goutte dans un océan. L'administration publique, elle est très complexe. C'est une grosse machine. Pour élaborer un projet, il faut des mois et des mois de travail. Et malheureusement, beaucoup de politiques raisonnent à travers leurs techniciens de base. Deuxième chose. L'association, son fondement, c'est la flexibilité. C'est flexible. On peut de suite enclencher une action, la suivre et surtout faire de la proximité. Donc, comme l'a dit Mme Ibora, et je partage complètement son point de vue, complètement, ces associations n'ont pas toutes les capacités pour accompagner les personnes qui sont en difficulté. On ne va pas venir dans un quartier pour parler des psys qui traînent. Il n'y a pas que des malades dans les quartiers. Ça aussi, c'est une réalité. C'est ce qui a été proposé plusieurs fois. Donc, les associations, il faut que le service public les accompagne, les aide, les épaule. Et nous serons les satellites du service public pour accompagner les personnes en difficulté. C'est ça le souhait. Et après, moi j'ai déjà demandé au préfet, une fois dans une réunion, des audits. Et on se porte volontaire, nous, les premiers, qu'ils fassent une audit sur nous. Et on est prêt à collaborer sur l'audit complètement, et par la suite, si on mérite la subvention, et nous l'attribue, si on ne la mérite pas, on s'engage à ne pas le demander.
Alors moi je voudrais, on va arriver au moment des conclusions, on va donner la parole un peu à tout le monde. Je voudrais quand même souligner que nous sommes dans une séquence politique dans laquelle, au fond, le projet qui a été posé, c'est de dire l'ordre a quitté le pays parce qu'on n'y met pas les moyens et la répression n'est pas faite correctement. Et il y a une politique qui est mise en place depuis 3 ans, très tournée vers la répression, et on a essayé dans les statistiques de nous donner une indication que les choses étaient sous contrôle. Or, les habitants des quartiers pourraient le dire. Moi, j'avais un ami à la Rainerie, il me disait « La voiture, tous les soirs, il y a une voiture qui brûle, c'est la voiture du jour. » Donc, les médias, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, les hommes politiques, par calcul, ont essayé de dire que nous étions sous contrôle, nous étions sur une fournaise. Donc moi, la question que je me pose maintenant, et je pense que beaucoup de gens se la posent, derrière ces émeutes-là, qui vont peut-être être sur le déclin cette semaine, est-ce que dans 6 mois, est-ce que dans 1 an, il n'y aura pas d'autres, nous ne rentrons pas dans un cycle comme il y a eu des émeutes raciales aux États-Unis dans les années 60, parce que ça n'était plus possible. Et je crois que là, on a atteint des seuils, ça n'était plus possible. Et donc, c'est un peu la question que je voudrais vous poser en conclusion. Vers quoi va-t-on? Où va-t-on? Comment vous voyez les choses? Alors, monsieur, dans l'ordre, alors, je ne sais pas...
Si ça ne vous dérange pas, je trouve ça un peu dommage que l'État ait mis l'état d'urgence. C'est là où on voit que ça... Je parle pas pour vous, hein.
Rappelons quand même que sur Toulouse, il n'a pas été appliqué.
Non, mais déjà, rien que le fait d'en parler, mon père et mon grand-père ont fait la guerre d'Algérie. Je vous dis, j'ai failli pleurer, moi, à ce moment-là. Dès que j'ai entendu ça, j'ai failli pleurer. Moi, ça m'a fait très mal. Très, très mal. Parce que j'avais l'impression qu'on était sous occupation, qu'on était un territoire à part. Moi, ça m'a fait très, très, très mal. La solution, c'est la communication. La solution, c'est de parler avec les autorités, quelles qu'elles soient. Et après, je pourrais dire oui. Là, je suis dans un pays où égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose. Ça me fera plaisir. Moi, je suis positif. Attention. Ce que je veux pas dire, c'est que je suis pas pessimiste. Bien au contraire, je suis optimiste. Mais moi, je dis ça. Mais les jeunes de quartier ne pensent pas forcément la même chose que moi. Pour eux, déjà, l'État, ils veulent pas entendre parler la police, encore moins. Moi, je suis encore positif. Et je crois en ces jeunes, parce qu'ils ont beaucoup de choses à me donner, et encore, mais beaucoup plus qu'on ne croit.
Madame voilà. Laura, quelle est votre perspective, quel est votre point de vue?
Mon point de vue qui est évidemment bien limité, hein, parce qu'on sait bien que tout ne va pas pouvoir se régler sur ces quartiers par les quartiers eux-mêmes. C'est une évidence, hein, ça aussi. Et que même si, en effet, il faut... que les quartiers, et c'est un élément qui est important, qui est un élément qui montre quand même, je ne dis pas que la violence est synonyme de vie, mais je dis qu'il y a des situations qui sont aussi, qui sont analogues dans le rural, par exemple, dans un rural très profond, où il y a ce type de difficultés qui sont des difficultés sociales pour un grand nombre d'entre elles. Hein, et que si c'est vrai que au niveau des quartiers, il y a cette réaction de violence qui, encore une fois, n'est pas acceptable, au niveau rural, on voit plutôt la passivité et on voit beaucoup de suicides aussi. Hein. Donc je veux dire par là, il y a des formes d'expression et il ne faut pas croire que seuls les quartiers sont stigmatisés en matière de difficultés sociales. Même sur les quartiers, ça paraît comme étant, si vous voulez, plus compliqué parce qu'il y a en effet ce phénomène d'étrangers, entre guillemets, qui pour la plupart d'entre eux sont des Français, qui ne sont donc pas d'étrangers, qui sont bien... qui sont bien dans leur peau sur le plan culturel, mais qui sont très mal dans leur peau sur le plan de l'ascenseur, comme on dit, l'ascenseur social, et finalement la possibilité d'avoir tout simplement le même destin que les autres. Je vois ces jeunes, moi, de l'école de la deuxième chance, quand ils viennent, ils n'ont pas confiance en eux. Ils se disent, moi, je ne pourrais jamais être ça. C'est pas la peine, mon projet professionnel, il vaut mieux que je le limite. Jamais je n'arriverai à ça. Parce qu'eux-mêmes, au départ, ont intégré l'échec. Il faut sortir de cette dynamique de l'échec. Et ça, ça passe par les quartiers, ça passe par les individus, et puis ça passe par l'action publique et l'action politique. Contrairement à vous, et vous me direz, c'est normal, sinon vous ne feriez pas, moi, je crois à la politique. Je crois et je me battrai pour la politique. Parce que le jour où il n'y aura plus de politique, le jour où il n'y aura plus de parti politique, il n'y aura plus de démocratie. Et donc ça, attention. Attention, dénigrer les politiques, je comprends ce que vous en dites, mais attention, c'est aussi la garantie de la démocratie. Donc, je ne dis pas qu'il faut que vous ayez conscience qu'on a besoin de la politique si on veut faire avancer les choses. C'est quelque chose, c'est un élément fondamental de la démocratie. Ceci dit, il faut vous-même, en tant que citoyen, et donc nous devons vous donner la possibilité d'être des citoyens à part entière. C'est ça notre responsabilité. Eh bien, vous, en tant que citoyen, vous devez influencer les orientations politiques. C'est ça être citoyen aussi. Et c'est ça les rapports qu'on peut avoir entre vous et nous. D'abord, comprendre pour ce qui est de nous. Il faut comprendre. Donc, pour comprendre, il faut écouter. Pour écouter, il faut être là. Pour entendre. Et ensuite, il faut qu'on vous propose, en effet, dans le cadre de la démocratie, ce que vous pouvez accepter, ce que vous pouvez refuser, mais par voie démocratique, c'est-à-dire en allant mettre quand même votre bulletin de vote dans l'urne.
Monsieur le procureur, oui. En 3 minutes, alors.
Oui, je vais essayer. Donc,
et si la simple,
il est certain,
nombreux autour du plateau.
Il est certain que si on avait la chance que dans l'intérêt des jeunes gens qui se livrent à ce type de délit et parfois de crime, que momentanément ça soit apaisé, parce que peut-être on se donne des chances réciproques d'essayer au moins de donner la confiance à certains qu'une volonté d'aller vers des bonnes solutions est donnée, ce sera bien, et surtout de parvenir à des résultats à court ou moyen terme assez convaincants. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, on risque peut-être, dans 6 mois, dans 1 an, c'est votre question, monsieur, d'avoir des événements beaucoup plus graves, parce qu'il sera encore plus difficile de convaincre des jeunes gens qui auront peut-être fait le pas de... Sans oublier peut-être, parce qu'il m'a été dit, puisque je laisse traîner mes oreilles aussi, qu'il n'est pas impossible que cette traînée ait pu aussi être... Parce qu'il y avait le ferment pour cela. Être animé par une stratégie de personnes venues d'ailleurs pour animer nos quartiers. C'est pas non plus quelque chose d'impossible. Ça m'a été dit, je ne veux pas le croire. Mais c'est pas impossible non plus. Mais pour que ça puisse avoir lieu, c'est qu'il y avait le ferment pour que ça puisse être déclenché. Maintenant, mon ami Moustapha m'a posé une question, à savoir sur une loi éventuelle d'amnistie. Bon, tout est possible. Ce que fait la loi peut le défaire. Et je profite de cet instant pour vous dire que... pour reconduire quelqu'un à la frontière, ça n'est pas aujourd'hui l'œuvre d'un préfet lorsqu'il y a commission d'une infraction pénale. Ça me paraît difficile, je vous parle d'un juriste, Moustapha. C'est-à-dire que dans le cadre de maintien de l'ordre, des infractions pénales peuvent être commises. C'est le cas de dégradation, d'incendie ou autre. Dans ce type d'infraction, les auteurs sont interpellés et confiés à l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que la police administrative qui était là, chargée du maintien de l'ordre, avait pour mission de rétablir de l'ordre et de le maintenir ensuite. Ça, ce sont les actions que l'on voit, chargées, etc., on fait reculer une manifestation. Mais si à l'intérieur, on découvre des infractions pénales, c'est-à-dire des dégradations, alors la personne est interpellée et on n'est plus en police administrative, on est en police judiciaire. Ce qui veut dire que ce n'est plus le préfet qui intervient, mais c'est le procureur de la République qui est chargé de l'action publique, c'est-à-dire qu'il constate les infractions, il rassemble les preuves et il fait condamner les auteurs. Auquel cas, les auteurs sont condamnés à des infractions pénales et le cas échéant, à la reconduite à la frontière, quand c'est possible. C'est pas toujours possible quand les gens ont titre de séjour, par exemple. On peut, dans ces hypothèses-là, leur interdire le département de Haute-Garonne. Mais s'agissant de faits caractérisant des infractions pénales, même dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, les auteurs sont confiés à l'autorité judiciaire. C'est vous dire que dans ce cadre-là, c'est l'autorité judiciaire qui peut, avec un juge, décider de l'infraction. Ce n'est pas un préfet, malgré tout le respect qui sont dus au préfet, dont la tâche est difficile en ce moment. Voilà ce que je veux vous dire. Mais ce qu'un président de la République peut faire, c'est dans une loi. Il peut aussi le faire défaire dans un projet de loi que nos représentants accepteraient ou refuseraient, bien entendu.
Donc, il nous reste une minute. Hein.
Je fais un nouvel effet d'annonce de Sarkozy, quoi. Vous avez entendu.
Je ne sais pas, non, je ne sais même pas. Moi, je ne vous parle pas de ministre, mais politique. Je vous dis le droit. Le droit, il est celui-là. Je ne connais pas d'autre. À moins qu'il y ait du nouveau, je ne sais pas.
On va donner à vous, mais ça sera pour vous la dernière minute, monsieur.
Je vous réponds, madame. Si on est là, c'est parce qu'on a accepté, et vous voyez bien qu'on est des républicains, de débattre avec des républicains, quel que soit votre bord. Et on était les premiers à interpeller. Il vient de vous le dire, Moustapha. Il y a l'OUF, elle a été invitée par LCP, j'ai vu de mes propres yeux. Il y avait des sénateurs de l'UMP, gauche et tout ça. Il déclare qu'il a lancé une fatwa. On n'est pas dans une république islamique. Alors, je ne vois pas pourquoi il veut accaparer le terrain politique. Moi, je veux que vous preniez ce terrain-là. C'est pas à lui. Et c'est à vous de trouver solution. C'est pas... Nous, on est là pour vous aider, madame, en tant qu'association. Quand vous avez la tâche énorme, nous, on vient pour vous supplier, pour vous aider. Mais on prend pas tout sur le dos. Vous nous avez donné tout sur le dos. Le résultat, il est là. Vous avez coupé les subventions. Ben, je dis, quand je dis vous, moi,
c'est la politique en général, je pense.
C'est la politique.
C'est pas forcément à vous, Kibora.
Nous commençons une deuxième émission, là, pratiquement. Il y en aura d'ailleurs peut-être d'autres.
Je l'espère.
Ça ne sera pas parce qu'il y aura encore des événements 8 jours, 15 jours de plus. Mais on ne peut pas prédire. Rien n'est dit.
Je m'excuse de. Allez-y. Je vous parle en connaissance de cause. C'est en 88, le 5 octobre 88, ça s'est passé quelque chose, la même chose de l'autre côté de la Méditerranée. Ça a été récupéré par ces gens-là et vous avez vu le résultat après. Alors souvenez-vous et vous êtes avertis.
Non, juste un mot.
Un dernier mot alors.
Oui, non mais ok ce que vous dites. Je dis que le danger, c'est... De tirer à bras raccourci contre les politiques en général, parce que ça peut faire le terreau du Front National. Et je dis que il faut faire attention et qu'il vous faut juger les politiques, non pas avec complaisance, les politiques, les partis politiques, sur les actes, évidemment, avant de les juger sur des paroles, mais en même temps ne pas rejeter en bloc le politique, parce que le politique, c'est la démocratie, qu'on le veuille ou non.
Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'échanges à créer.
Donc, eh bien, on remercie les radios qui ont aussi participé à la diffusion de cette émission. On les a citées tout à l'heure. Donc, cette émission a été possible, effectivement, puisqu'elle a été accueillie par Fréquence Soleil. Elle a été possible grâce à Éphémère, grâce à Mon Pays. Donc, vous, Philippe Frézière, et vous, Jean-Claude Catala.